Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il est bien 9h10 à Paris, 8h10 en temps universel. Bienvenue si vous nous rejoignez. L'antenne vous appartient dans un instant comme tous les jours à cette heure-ci. Vous le savez, ce sont vos questions à la rédaction des RFIS et votre rendez-vous privilégié avec nos experts ici à Paris, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. C'est l'occasion de nous poser vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Le principe, vous le connaissez, hein, s'il vous manque des clés, des repères pour décrypter les sujets que nous traitons à l'antenne, eh bien vous nous rejoignez, vous êtes les bienvenus, nous vous donnerons la parole. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Dans 30 minutes, comme tous les matins, un débat et nous dresserons tout à l'heure ensemble un état des lieux de la situation économique et sociale au Sénégal avec en toile de fond ce rapport qui fait polémique. Le FMI classe le Sénégal parmi les 25 pays les plus pauvres de la planète. Évidemment, l'opposition en profite pour critiquer l'action du président Macky Sall. En tout cas, le chef de l'État affirme que ce classement n'a pas de sens et il en veut pour preuve le pouvoir d'achat des Sénégalais, mais aussi l'accès aux services de base ou encore les politiques mises en place pour transformer l'économie de son pays. L'occasion donc ce matin de dresser ensemble un bilan de l'action de Macky Sall. Après, faut-il le rappeler, sa triomphale victoire il y a maintenant 2 ans et demi. Alors quels changements, quelles améliorations avez-vous constaté? La rupture promise est-elle en marche? Êtes-vous surpris par ce classement du FMI? Je vous cache pas que vous êtes très nombreux à nous appeler du Sénégal. Plusieurs centaines de réactions sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai évidemment quelques-unes tout à l'heure et nous vous donnerons là aussi la parole. 33 9 693 693 70. Vos questions donc. Questions sur la lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes maintenant à 3 semaines du coup d'envoi de la COP 21, la conférence climat qui se tiendra à Paris. Edwin, bonjour.
Bonjour Juan.
Bienvenue sur notre antenne. Vous nous appelez du Bénin. On vous écoute. Quelles sont vos questions?
Ok. La semaine dernière, François Hollande, le président français, était en Chine où il a rencontré son homologue chinois pour une réussite du COP 21 à Paris. Or, on se rappelle qu'en 2009, la Chine et d'autres pays ont fait échouer le sommet de Copenhague. Donc ma question est donc celle-ci. Pourquoi la Chine s'engage donc cette fois-ci? Et la deuxième, à quoi s'engage-t-elle donc pour la réussite du COP 21?
Alors c'est vrai qu'en 2009, vous avez raison de nous le rappeler, la Chine avait largement contribué à faire capoter la conférence de Copenhague et désormais, c'est vrai qu'on a l'impression, en tout cas c'est la volonté affichée par Pékin, que la Chine veut devenir l'un des leaders dans la lutte contre le réchauffement climatique. Bonjour Anne-Cécile Bras.
Bonjour Juan, bonjour Edwin.
Merci d'être avec nous, vous êtes la spécialiste des questions environnementales à RFI, vous présentez tous les samedis et dimanches sur notre antenne le magazine C'est pas du vent. Comment expliquer ce changement, on peut le dire radical, des autorités chinoises?
Oui, absolument. Ben, c'est-à-dire qu'en 6 ans, la géopolitique du climat a évolué. Hein. En fait, les pays émergents, Chine en tête, mais c'est valable aussi pour l'Inde ou l'Afrique du Sud, ne sont plus arc-boutés sur une position qui bloquait jusqu'alors toute négociation. Leur position, c'était les pays industrialisés sont responsables des changements climatiques, donc c'est à eux de régler le problème. Laissez-nous de notre côté nous développer et nous n'avons pas de compte à rendre. Et alors, il y a plusieurs raisons à ce changement, à cette évolution, hein, au fait que les pays émergents ne sont plus sur cette position. Tout d'abord, les conséquences des changements climatiques sont désormais visibles et la Chine fait partie justement des pays très impactés. Elle souffre de désertification, de manque d'eau et puis il y a depuis quelques années une forte mobilisation citoyenne grandissante contre la pollution dans les grandes villes perçue par les autorités chinoises comme une menace de déstabilisation du régime.
Alors, c'est vrai qu'il y a une forte pression intérieure, il y a une colère qui gronde au sein de la population. Il faut dire qu'il y a quand même plus de 4000 personnes qui meurent chaque jour, dit-on, à cause de la pollution de l'air. Donc pression intérieure.
Oui, et c'est en grande partie dû aux pollutions qui émanent des centrales à charbon, qui émettent des particules fines, hein, qui polluent les villes. Donc, il faut que la Chine se lance dans une transition énergétique. Et autre évolution, c'est que la Chine, en 6 ans, est devenue vraiment un acteur économique majeur, justement, du marché de ces énergies renouvelables, c'est-à-dire le solaire et l'éolien, dont les prix ont d'ailleurs fortement baissé, hein, puisque le solaire a baissé de 80% depuis 2008, l'éolien de 40%, et leur rendement énergétique augmenté durant la même période. Alors, dans le marché mondial du solaire, la Chine se situe désormais juste après l'Allemagne. Elle a donc tout intérêt à miser sur le développement de ses énergies à travers le monde, ce qui est compatible avec la lutte contre les changements climatiques. Je vous rappelle que les énergies fossiles représentent toujours 80% du mix énergétique mondial. Et puis, il y a un autre élément important, et c'est pour ça que François Hollande est allé en Chine, hein, c'est que la Chine joue un rôle diplomatique majeur dans cette négociation. C'est un moyen pour elle de s'imposer sur la scène internationale. Et au sein de la Convention des Nations Unies sur le climat, elle appartient au même groupe de négociation que les pays africains et que les pays les moins avancés, qu'on appelle en jargon onusien le G77, qui regroupe quand même 133 pays, sont les deux tiers des États membres de l'ONU. Elle est donc un peu le parapluie des pays en développement face aux pays industrialisés. Et elle fait partie des BRICS, hein, le groupe des pays émergents avec l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, qui sont très influents dans cette négociation.
La Chine qui peut donc faire pression sur ses partenaires, en particulier l'Inde, vous le citiez à l'instant, quatrième pollueur mondial. Le rôle de la Chine est donc crucial dans ces négociations. Edwin nous demandait, mais quels sont déjà les engagements pris par la Chine en vue de la COP21?
Oui, ben ils sont assez forts en fait, hein, puisqu'en novembre 2014, la Chine et les États-Unis, qui représentent à eux deux 40% du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre, se sont engagés à les réduire. Et la Chine, elle s'est fixé l'objectif d'un pic de ses émissions autour de 2030, avec cette précision qui est avec l'intention d'y arriver plus tôt, on verra bien. Puis il y a eu cette déclaration commune avec la France la semaine dernière, dans laquelle la Chine accepte le principe d'un accord juridiquement contraignant, ça c'est très important, qui engagerait tous les pays du monde à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est bien ce que l'on attend à cette conférence sur le climat à Paris. Et là aussi, c'est nouveau. Et en plus, la Chine a accepté cette idée d'une révision tous les 5 ans des engagements des pays pour être sûr que nous serons bien sur la bonne trajectoire pour limiter le réchauffement global du climat de la planète à 2 degrés.
Et après la déclaration conjointe de la semaine dernière de la France et de la Chine, eh bien François Hollande s'est dit optimiste. Il croit en un succès de la COP21. Alors justement, Joël, qui est à Kinshasa, je vais me faire son porte-parole, nous demande comment François Hollande va-t-il convaincre les autres pays d'arriver à un accord? Quelle est concrètement la stratégie du président français?
Oui, alors il y a une espèce de focalisation en France, notamment sur le rôle de François Hollande dans cette conférence, qu'il faut quand même relativiser, parce que François Hollande n'est que le président hôte de cette conférence, et la France, dans cette négociation, n'est qu'un pays de l'Union européenne parmi les 195 pays qui sont membres de cette Convention des Nations Unies sur le climat. Ensuite, ce n'est pas François Hollande qui va présider la conférence, mais c'est Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, et son rôle est d'impulser un rythme aux négociations, parce qu'aujourd'hui, le texte fait encore 50 pages, pleines d'options. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a en ce moment même et jusqu'à demain à Paris une réunion informelle avec des ministres de 60 pays pour avancer sur les points qui bloquent encore, comme l'ambition de l'accord, son équité, les financements à mobiliser après 2020 et les actions concrètes qui seront entreprises d'ici 2020. Et la conférence débutera le 30 novembre avec un sommet des chefs d'État, là aussi pour que les chefs d'État donnent des mandats clairs à leurs négociateurs. Donc le rôle de François Hollande, certes, c'est d'impulser, mais ça s'arrête un peu là.
Oui, enfin, l'enjeu quand même est double pour le président français.
Oui, parce qu'il doit laisser son nom dans l'histoire. Enfin, c'est son ambition, puisque c'est la seule conférence internationale de son quinquennat. Donc, c'est vrai que si cette conférence aboutit à un accord qui contraindra pour la première fois tous les pays à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre, bah, l'histoire retiendra que ce fut durant son quinquennat. Et puis, autre enjeu pour François Hollande, prouver au monde que la France est capable d'accueillir dans les meilleures conditions un événement de cette ampleur. 40 000 personnes sur un site pendant 15 jours. Puis si la conférence se clôture par un accord ambitieux, bah c'est vrai que François Hollande pourrait aussi en bénéficier pour redorer son image avant les présidentielles de 2017.
Effectivement. Et puis dans 3 semaines, signalons qu'à l'occasion de l'ouverture de la COP21, RFI vous proposera évidemment des émissions spéciales, dont Appel sur l'actualité. Nous serons sur place au Bourget, aux côtés donc de tous ces chefs d'État, avec de nombreux invités sur le studio d'RFI, et vous, Anne-Cécile Bras. Et nous donnerons la possibilité aux auditeurs d'RFI de nous poser toutes vos questions sur le réchauffement climatique, sur les négociations en cours. D'ailleurs, si vous avez déjà des questions, vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour cette émission spéciale du 30 novembre. Merci Anne-Cécile Bras. Bonne journée.
Merci
à vous.
Merci Ron.
Et on remercie évidemment Joël qui était à Kinshasa. 33 9 693 693 70. Bonjour Adam.
Bonjour Juan et bonjour à tous les fidèles auditeurs de RFI.
Vous êtes à N'Djamena, au Tchad, et vous avez des questions sur la Turquie.
Oui. Après les élections législatives du 1er novembre dernier, le président turc a pour projet de changer la constitution de son pays. Alors, Juan, j'aimerais avoir quelques éclaircissements. Quelles modifications veut-il apporter à la constitution? Comment est perçu ce projet par les Turcs?
Ah. Effectivement. C'est vrai que ce projet est très contesté, mais vous avez raison, depuis maintenant un peu plus d'un an, depuis son élection à la présidence de la République, Recep Tayyip Erdogan plaide pour une réforme de la Constitution, et c'est un projet qu'il vient de relancer après la victoire de son parti, l'AKP, aux dernières élections législatives. Bonjour Jérôme Bastion.
Bonjour Juan, bonjour Adam, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant d'RFI en Turquie. Quelles modifications le président turc veut-il apporter à la Constitution ?
Alors bah écoutez, c'est assez simple, hein. Il veut simplement faire passer le pays d'un régime parlementaire aujourd'hui à un régime présidentiel. Il veut donc présidentialiser le régime, il est le président déjà, mais il veut devenir un président fort et non plus un président symbolique comme il l'est aujourd'hui, à la manière des présidents par exemple allemands, on va dire, qui n'ont pas les pouvoirs de diriger le gouvernement, de réunir le cabinet et de mener directement l'exécutif. Hein.
Donc il veut récupérer l'essentiel des pouvoirs du Premier ministre.
Voilà, c'est ça. Il veut récupérer l'essentiel des pouvoirs du Premier ministre. Il veut véritablement gouverner son pays et pas seulement inaugurer les chrysanthèmes, comme on dit.
Ouais. Comment ce projet est-il perçu par la population turque? Quand on écoute le président Erdogan, on a l'impression que c'est l'une des priorités des Turcs. Qu'en est-il réellement?
La population turque, elle s'est exprimée après son élection en août 2014, donc il y a un peu plus d'un an. Elle s'est exprimée deux fois lors de ses élections législatives. Lui avait fait campagne très très ouvertement, bien que président, donc normalement il ne devrait pas entrer dans l'arène politique, si on peut dire, pour défendre son parti, l'AKP, mais il s'est exprimé très clairement. Il a demandé aux électeurs de lui donner 400 députés au moins pour régler cette question. Dans la paix et dans le calme, avait-il dit, donc pour changer de constitution, mais les électeurs, par deux fois, en juin dernier et la semaine dernière, ont dit non à ce projet. Ils ont d'abord, en juin, privé l'AKP au pouvoir depuis 13 ans de la majorité absolue, raison pour laquelle on est retourné aux élections, parce qu'il n'y avait pas eu de gouvernement de coalition formé durant l'été, et la semaine dernière encore, l'AKP a certes fait un meilleur score qu'en juin, mais n'a toujours pas eu cette majorité qualifiée, comme on dit, oui. Soit des deux tiers, soit des trois cinquièmes, qui permettent de faire passer ce projet. Donc en fait, les Turcs sont opposés, ils sont d'accord pour garder l'AKP au pouvoir, mais ils sont opposés fondamentalement au projet d'ultra-présidence ou d'hyper-présidence de M. Erdogan. Et d'ailleurs, un sondage a été fait la semaine dernière, je crois, juste après ou juste avant l'élection du 1er novembre. Ce sondage montrait que 57% des Turcs étaient opposés à ce projet de régime présidentiel qui fait peur non seulement à l'opposition, ce qui est un peu normal, et à la gauche d'une manière générale, mais qui fait peur aussi aux Turcs parce qu'ils sentent quand même que M. Erdogan a trop d'ambition et veut avoir trop de pouvoir. Il s'en est déjà arrogé beaucoup de manière un petit peu anticonstitutionnelle. Et s'il devenait le président fort qu'il rêve d'être, eh ben on ne sait pas trop où le pays pourrait aller.
Ouais. Donc il ne pourra pas modifier la constitution par la voie parlementaire, à moins, on ne sait jamais d'un miracle, d'un accord avec l'opposition. Alors justement, Adam, vous avez une dernière question.
Oui, Erdogan doit-il passer par un référendum pour changer la constitution?
Alors un référendum est-il possible, Jérôme Bastion?
Alors un référendum est possible s'il n'y a pas aujourd'hui de majorité des deux tiers qui permettent d'adopter directement la réforme constitutionnelle au Parlement, ça c'est clair. Un référendum est possible s'il y avait une majorité qualifiée toujours au Parlement des trois cinquièmes. Le Parlement compte 550 députés, il faudrait donc 330 députés pour convoquer un référendum. Cette majorité n'existe pas encore pour l'instant. Aux dernières élections, l'AKP a fait élire 316 députés, donc il manque une quinzaine de députés dont on ne doute pas que le président et les dirigeants de l'AKP vont essayer d'aller racheter, d'aller convaincre quelques députés à droite et à gauche pour atteindre cette majorité et donc convoquer un référendum, parce que on l'a vu et M. Erdogan l'a dit lui-même, il n'est pas question de renoncer à ce projet. Erdogan n'a pas du tout envie de s'embêter, de n'avoir rien à faire dans son grand palais. Il veut absolument, il le répète à l'envi, il veut absolument être le président fort de la nouvelle Turquie.
Il veut un régime hyper présidentiel. Merci Jérôme Bastion en direct de Turquie. Adam, bonne journée à Djamena, 9h25 à Paris. On a le temps de prendre une dernière question, d'accueillir Pierre Chaperon du service des sports. Bonjour Pierre.
Bonjour Juan.
Et Khalifa nous appelle du Mali. Bonjour Khalifa.
Bonjour Monsieur Gomez et bonjour à tous.
Vous êtes à Bamako, nous vous écoutons.
Oui, le jeudi dernier, j'ai appris sur votre antenne que l'international français Karim Benzema est mis en examen pour chantage sur Valbuena. J'aimerais connaître davantage cette histoire de chantage en posant deux questions.
Oui.
La première question, de quoi est-il soupçonné dans cette affaire ?
Alors, on va déjà répondre à cette première question, affaire pour le moins compliquée, à moins d'avoir suivi tous les épisodes. Pierre Chaperon, c'est vrai que les enquêteurs cherchent à déterminer le rôle éventuel joué par Benzema dans cette tentative d'extorsion de fonds dont a été victime Valbuena. Que lui reproche-t-on ou que lui soupçonne-t-on d'avoir fait ?
Alors, c'est surtout des soupçons, hein, selon certaines sources proches du dossier, comme on dit généralement. Le joueur du Real Madrid aurait reconnu lors de son interrogatoire être intervenu dans cette histoire à la demande d'un ami qui s'appelle Karim et qui est rentré dans le jeu des trois maîtres chanteurs qui sont à la base de cette histoire. Un ami qui s'appelle Karim et qui est originaire de la même ville de Bron, qui se trouve dans la banlieue de Lyon, et selon les échanges téléphoniques, on en sait un peu plus. Donc Benzema ensuite aurait demandé à Valbuena de payer les maîtres chanteurs. Maintenant, reste à vous savoir si cette discussion a bien eu lieu. Et si, quel était le ton de cette discussion ? Est-ce que c'était quelque chose d'amical ? Est-ce que c'était quelque chose sur le ton d'un ordre ?
Ce qui est sûr, c'est que les deux hommes se sont parlé, oui. Valbuena et Benzema,
ils se sont parlé
au début du mois d'octobre, c'est
oui,
bien ça ?
Oui, lors d'une réunion avant deux matchs de l'équipe de France à Clairefontaine, lieu d'entraînement de l'équipe de France, lieu traditionnel de l'équipe de France. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt sérieux, hein, puisque Benzema a été mis en examen pour complicité, tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit, et ça c'est puni de 5 ans. Valbuena et Benzema qui n'ont pas du tout le droit de se rencontrer en ce moment.
En tout cas, Valbuena devrait être entendu
entre
les prochains
le 16
jours.
Et le 20 novembre dit-on de sources concordantes.
Et on saura à ce moment-là quelle est la version des faits de Valbuena. Autre question, Khalifa.
Oui, la deuxième question, cette affaire pourra-t-elle menacer son contrat avec le Real Madrid ?
Alors, autant dire tout de suite que cette affaire a fait les gros titres, évidemment, dans tous les médias espagnols. Valbuena est un joueur apprécié en Espagne, apprécié en tout cas par les aficionados du Real Madrid. Est-ce que son contrat est en jeu ?
Alors, Benzema, son contrat n'est pas en jeu, puisque quand il est sorti de sa garde à vue et qu'on a appris sa mise en examen, il est tout de suite rentré à Madrid. Et le soir même, le Real Madrid a sorti un communiqué disant qu'il était à fond derrière son joueur, qu'il croyait qu'il croyait pas que les faits étaient vrais. Donc il y a eu un communiqué. On sait que Karim Benzema jouit d'une grosse réputation du côté de Madrid. C'est un joueur très apprécié par le président Florentino Pérez, le président du Real, par les joueurs. On sait que c'est un grand ami de Cristiano Ronaldo, en dehors et sur le terrain. Et puis aujourd'hui, dernière nouvelle, c'est Zinedine Zidane qui est venu en aide presque à Karim Benzema, puisque il a dit qu'il faisait confiance et qu'il croit en Benzema, il croit qu'il est innocent. Zinedine Zidane, c'est pas quelqu'un
qui prend souvent la parole d'ailleurs.
D'une et de deux, qui est très écouté par le président Florentino Pérez, c'est l'entraîneur de la Castilla qui est la réserve du Real Madrid, et c'est souvent une oreille de Florentino Pérez qui l'écoute très attentivement du côté du Real Madrid.
Donc pour l'instant, le club soutient à 300% son joueur dans cette affaire. Merci Pierre Chaperon, merci à tous de votre fidélité. Dans un instant, le journal, et dans 10 minutes, on sera de retour avec notre débat du jour consacré à la situation économique au Sénégal.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie après le journal.